C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
J'ai pensé à toi, Luc, hier, particulièrement quand j'ai vu le ministre Benoît Charrette nous présenter son plan. Et j'ai posé la question tantôt au professeur Pinault, puis dans le fond, tu dis, aimes-tu mieux un plan présenté par un ministre qui dit, écoute, le maximum qu'on va faire, c'est 50 % de la cible, ou un plan présenté par un ministre qui dit, écoute, c'est extraordinaire, puis qui finalement fait rien?
Ben c'est, oui, je pense que c'est plus honnête, là, la façon québécoise d'être plus honnête de fonctionner que la façon d'Ottawa. Ottawa dit, on va atteindre les cibles, puis finalement, ils mettent là-dedans des moyens pour les atteindre qui sont pas encore développés, tu sais, comme la captation carbone, l'économie hydrogène, les additifs dans l'essence vraiment verts, là, pas juste faire des récoltes agricoles puis rajouter de l'éthanol. Donc, il y a l'utilisation de la biomasse. Donc, le plan fédéral est plus snoro. Mais d'ailleurs, on peut se procurer une copie du plan fédéral dans la revue Mickey, dans la partie farce et attrape. Mais le plan québécois est plein de trous aussi. Le plan québécois, c'est un peu comme si tu as fait un gruyère, tu avais inversé la proportion de fromage puis de trous. Fait que ça donne pas de la fondue bien nourrissante en bout de ligne, là. Parce que, premièrement, ce plan-là, il dit déjà, il y a 50 % de l'objectif, je sais pas comment on pourrait l'atteindre. Avez-vous des idées? Moi, je sais pas. Tu sais, il y a eu des fonctionnaires qui étudient les plans à travers le monde. C'est pas qu'il manque de moyens, d'études, de compréhension. Ils manquent de courage politique. Ils veulent pas changer les habitudes de vie des Montréalais. Ils veulent pas des Canadiens, des Québécois. Ils ne veulent pas non plus discriminer dans les industriels qu'on attire ici avec notre faible, le coût très faible de l'hydroélectricité. Les centres de données, les centres de crypto-monnaie, mais n'importe quel industriel. On veut pas discriminer. On veut de la croissance. On veut de la croissance. Si un gars, il vient ici puis il dit, mais moi, j'ai besoin d'électricité parce que je produisais des additifs ou je produisais comment ça s'appelle, le truc que tu mets dans l'agriculture là pour pas qu'il y ait de bébites.
Des pesticides,
je produis des pesticides, puis je veux mettre de l'hydrogène, je veux utiliser l'hydrogène à la place du gaz, whatever, là, je donne un exemple. Viens-t'en. On ne juge jamais la mission de l'entreprise. On se dit, tu veux transformer du pétrole par l'électricité, viens-t'en, t'es bienvenu. Fait que ça donne un plan sans contrainte. Il n'y a aucune contrainte. Tu peux t'acheter tu peux décider que tu vas t'acheter le plus gros véhicule du monde, mais il va être électrique. La production du véhicule là, qui produit énormément de pollution, ça, c'est pas grave. Donc, c'est un plan qui est plein de trous. Puis, je vais laisser Nathalie parler des trous tantôt.
Ben moi, je dis, vaut mieux un plan que pas de plan. Puis, deuxièmement, j'ai trouvé le ministre de l'Environnement extrêmement lucide parce qu'il a dit, il était honnête. Il dit, non, on n'atteindra pas les cibles, mais si on n'a pas de plan, on va augmenter nos émissions. Alors, voici le plan, 7,6 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Et ça, c'est à part tous les investissements qu'on s'apprête à faire, Tramway de Québec, le REM de l'Est, la ligne bleu, et c'est des dizaines de milliards de dollars qu'on va investir collectivement pour faire ce fameux virage pour diminuer nos GES. Quand tu dis, Luc, il n'y a pas de contraintes, je nuancerai un petit peu. Oui, il y a ce qu'on appelle le bonus, c'est-à-dire le rabais pour l'achat des véhicules électriques, mais il y a aussi le malus, c'est-à-dire le bâton qui dit que si tu te promènes en gros cylindrée, encore aujourd'hui au Québec, la SAAQ te perçoit un droit d'immatriculation qui est plus élevé si ta voiture a un plus gros moteur. En fait, s'il y a plus d'émissions, ton moteur émet plus d'émissions de gaz à effet de serre. Moi, ce que j'ai aimé de ce plan, c'est que voici l'objectif à atteindre en 2030, mais voici ce qu'on a à faire d'ici 2027. Le ministre dit, on devra faire 12 fois plus d'efforts que ce qu'on a fait d'ici 2030, que ce qu'on a fait en 32 ans. Alors, c'est énorme, là. En 8 ans, nous dit-il, il faudra faire 12 fois plus d'efforts qu'on en a fait en 32 ans.
Mais c'est ça le problème, Nathalie.
C'est le défi. C'est le défi, Luc. Moi, je parlerais davantage de défi. Et le ministre, il n'y a pas de lunettes roses, là. Puis moi, ça me plaît, ça. Parce que l'avantage aussi, Luc, c'est que le plan va être mis à jour à chaque année. Alors, dans l'année prochaine, il va dire, ben voici quel est le bilan. Ah, savez-vous quoi? Il faut se repositionner parce que ce qu'on fait comme effort, ce n'est pas suffisant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Oui, c'est vrai que le discours est correct.
Oui.
Le problème, c'est quand tu regardes les chiffres. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va ouvrir le maudit plan, là, puis qui va regarder tonne par tonne comment on va réduire de 10 tonnes ici, 15 tonnes là. T'sais. Ce sont des chercheurs. Le public ne fait pas ça. Tous les chercheurs à qui tu poses la question sont morts de rire à terre. Faut leur donner des calmants tellement ils sont crampés de rire de voir que ces chiffres-là ne font aucun maudit bon sens, dans aucun sens. C'est ridicule. Je vais t'en donner quelques exemples. Premièrement, on vient de dire qu'il y a 50 % des cibles qui peuvent pas être atteintes. Mais là, on dit, oui, mais attention, la taxe carbone, puis au Québec, ça s'appelle le système de plafonnement et d'échange des émissions, le prix va augmenter, puis progressivement, la contrainte va être plus grande, puis progressivement, donc, les gens vont se mettre à modifier leurs habitudes. Mais il augmentera jamais assez. Là, il y avait Olivier Pinault qui disait justement, voyons donc, dans la presse ce matin, à un instant, le commissaire fédéral au budget disait, il faut augmenter de 170 $ la tonne de carbone à 170 $, OK? Le Québec a un système différent, mais si on compare à la tonne carbone, là, pour l'instant, en bout de ligne, on serait à 96 $ et non pas à 170 $. Puis à 170 $, là, tu fais juste commencer à changer tes habitudes. Mais pour l'instant, on est à 30 $. Fait qu'à 30 $, vas-tu pas prendre l'avion parce que ça te coûte 60 $ de plus? Ben non, tu vas le prendre, l'avion. Vas-tu pas t'acheter un gros F-150 parce que t'as des droits d'immatriculation plus chers? Ben non, tu vas l'acheter, le F-150. La preuve, c'est que c'est le véhicule le plus vendu. La preuve, c'est que de plus en plus, les véhicules sont de plus en plus gros et les gens roulent de plus en plus. Et les taxes carbone sont en place depuis des années. Ça ne marche pas.
Ben, c'est-à-dire que oui, ça marche parce qu'il y a presque 175 grands pollueurs au Québec qui ont adhéré à ce système-là. D'ailleurs, 75% de toutes les émissions, là, on les contrôle grâce à ce système. Est-ce que ça pourrait être amélioré? La réponse, c'est oui. Mais sais-tu pourquoi, Luc, politiquement, on n'augmente pas le fameux droit d'émission? Parce que ça va se retrouver dans le prix à la pompe que tu payes chaque fois que tu vas faire le plein de ta voiture.
Ben oui.
Actuellement, on estime que ce fameux plafond-là et le prix qu'on impose par exemple, aux pétrolières au Québec, ben, il se traduit par une augmentation d'à peu près 8 sous du litre chaque fois que tu vas faire le plein de ta voiture. Alors, le gouvernement, selon moi, est un petit peu peut-être frileux par rapport à ça. Est-ce que ça peut être amélioré? La réponse, c'est oui, parce qu'on a beaucoup misé sur ce système de plafonnement d'échange pour réduire nos GES. Est-ce que c'est suffisant? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il faudra faire davantage? La réponse, c'est oui.
Davantage, Nathalie, si tu permets, je vais te donner quelques pistes rapidement.
Moi, j'en ai une piste, le gaspillage alimentaire, parce que c'est pas du tout dans le plan. Puis moi, j'aurais souhaité qu'on puisse s'attarder à ça. Et je le dis souvent, comme on a fait en France, une loi sur les invendus. C'est un scandale, la façon dont on gaspille les restos, ce qu'on gaspille personnellement à la maison, le gaspillage de vêtements. C'est incroyable tout ce qu'on met à la poubelle. Ça, selon moi, ça devrait être davantage encadré.
C'est une bonne piste. Une autre piste, c'est que le Québec a décidé, de facto, en commençant, que tous les grands pollueurs étaient exclus du plan. Tous les grands pollueurs qui étaient en concurrence avec d'autres producteurs à travers le monde ou au Canada. Donc, les alumineries ne paient pas de droit de polluer.
Taxe carbone.
Ben, c'est pas vrai. Les Alouettes de Saumon, Alcoa, ils sont dans la liste des grands émetteurs qui sont soumis.
Oui, sauf que c'est le gouvernement qui paie pour leurs émissions.
OK. En tout cas,
les alumineries, les papetières, l'agriculture, c'est normal qu'elle ne paie pas, les dépotoirs ne paient pas. Donc, toi, tu payes ton 8 cents le litre, mais la plupart des gros pollueurs ne paient pas.
Explique-moi pourquoi, à ce moment-là, le marché a rapporté 5,6 milliards depuis 2013.
C'est parce que c'est 75% qui paient, puis 25% qui ne paient pas. Et ça, c'est un premier trou. Je ne dis pas que ce n'est pas le plus gros trou. Là, ça, c'est un gros trou. L'autre gros trou, là, c'est quand ils font leur calcul en disant, à force qu'on augmente la taxe carbone ou les droits de plafonnement et d'émission, à un moment donné, les gens vont changer d'habitude. Mais là-dedans, on ne calcule pas les délais. Je vais te donner un exemple précis, là. Si tu dis, moi, je chauffe ma piscine avec du propane. Il y a bien des gens qui ont ça, une bouteille de propane, chauffent leur piscine avec du propane. À un moment donné, ça va coûter plus cher pour le propane, mais tu ne vas pas changer du jour au lendemain à l'électricité ou à une autre méthode, mettons des panneaux photovoltaïques. Et dans le plan, c'est calculé comme si, à un moment donné, tu vas avoir un changement automatique. Non, il n'y en a pas. Les délais, le changement des habitudes, les délais, la réticence des entreprises, la réticence des particuliers n'est pas calculée. Mais quand tu as un plan qui est sur 8 ans et tu ne calcules pas ça, ça se peut très bien que tu te rendes au bout de 8 ans et que c'est rien passé. Pareil pour les éco-bâtiments. Tout le programme des éco-bâtiments.
Il y a plein d'incitatifs dans le plan pour faire cette conversion.
Mais pour l'instant, ça ne se fait pas.
On s'en reparlera dans 5 ans, tu verras où on est rendu.
Avant, j'espère.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport des commissaires, Nathalie, tu commences.
Oui, l'argent n'a pas d'odeur, cette fameuse transaction entre Elon Musk et Twitter. Au moment où les émules de Bolsonaro au Brésil jubilent, la Fédération internationale des journalistes, vous avez peut-être vu ça, a condamné le projet de rachat et voit une menace pour la liberté de la presse. C'est un point de vue que je partage. Et moi, j'ai trouvé assez ordinaire que deux banques canadiennes, la RBC et la CIBC, investissent sous forme de prêt un peu plus d'$1 milliard dans l'aventure d'Elon Musk, sachant que Musk a comparé le premier ministre Justin Trudeau.
Oui,
bureau à Hitler. Honnêtement, sur le plan éthique, le dos banc aurait pu se garder une petite gêne. Un grand jour pour les hommes homosexuels, c'était confirmé hier par Santé Canada et je trouve ça absolument fantastique. 30 ans, après 30 ans d'attente, oui, les hommes homosexuels au Canada pourront maintenant faire des dons de sang. Malheureusement, c'est une permission qui ne touche pas encore Québec. Emma Québec continue de maintenir l'interdiction, sauf pour le plasma. Alors, tout ça va être en vigueur à partir du 30 septembre. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'était... je comprends que lorsqu'il s'agit de dons de sang, il faut être extrêmement prudent, mais c'était perçu et vécu comme une discrimination pour les homosexuels au pays. Catégorie ne pas avoir la langue dans sa poche. Vous devinez peut-être à qui je réfère cette semaine. Grégory Charles pour sa sortie sur le système d'éducation. J'espère sincèrement que le débat va se poursuivre, entre autres sur les enjeux qu'il a soulevés liés aux méthodes d'enseignement entre les filles et les garçons et le calendrier scolaire. Je pense qu'on avait besoin de ça. Il y avait quelque chose d'extrêmement rafraîchissant dans sa sortie. Peut-être un peu candide, mais en même temps, ça a fait bouger les choses. On n'a pas beaucoup entendu le ministre de l'Éducation commenter sa sortie, mais ça va peut-être donner du matériel pour les partis politiques qui se préparent pour la prochaine campagne électorale. La bureaucratie à son meilleur. Je vais vous parler de l'histoire de Nathalie Toussaint. C'est un article qui a été publié dans le Journal de Montréal. Je trouve ça absolument épouvantable. C'est une mère monoparentale d'un petit garçon de 5 ans qui vit l'enfer avec Revenu Québec. Parce que un employeur pour qui elle a travaillé pendant 5 jours s'est trompé dans la rédaction de son document, de son T4, là, son relevé d'emploi, il a mis une virgule à la mauvaise place. La dame a gagné 492,75 $, mais parce que la virgule a été mise à la mauvaise place, ben son relevé fait état d'un revenu de 49 275 $. Imagine. Alors, Revenu Québec lui réclame 6 000 $. La pauvre dame ne dort plus. Elle est hyper stressée. Je me dis... Et puis là, elle s'adressait à son député. Je ne sais pas qui est son député, mais il semblerait que son député n'a pu rien faire pour elle. Alors, ce matin, là, j'implore Revenu Québec. Je vous implore. Foutez la paix à cette pauvre mère, à cette pauvre femme monoparentale.
Je pense qu'il va y avoir des appels, Nathalie, de bien du monde qui voudrait qu'on leur foute la paix. Il doit y avoir des erreurs comme
mais
ça.
Mais Luc,
là.
Mais ça, écoute, c'est une virgule. C'est évident. Tu ne peux pas avoir travaillé pour quelqu'un pendant 5 jours puis avoir gagné 49 275 $, tu sais.
C'est sûr. C'est sûr.
C'est sûr, effectivement.
Le jugement n'est pas toujours disponible, hein?
Non, mais imagine, là. Non, moi, je trouve ça épouvantable. Puis on n'arrête pas de dire, oui, il faut s'occuper des femmes, des mères monoparentales, puis il faut être attentif à l'endroit de ceux et celles qui en arrachent dans la vie. Mais là, on a un exemple concret de passer à l'action. Une
virgule. Puis si elle ne paye pas, j'imagine qu'elle va avoir des pénalités, des intérêts qui vont rester même quand l'erreur va avoir été reconnue.
Absolument. Mais comment tu veux payer 6 000 $ lorsque tu es une mère monoparentale, puis elle gagne un petit salaire? Et je terminerai ce rapport rapidement avec notre étoile. Si on était au Centre Bell, je parlerais de l'étoile du match, mais l'étoile de la semaine, évidemment, à Guy Lafleur pour l'ensemble de sa carrière, mais également la perte d'une grande dans le domaine du country, Julie Darège, qui est décédée. On a longtemps été condescendant avec la musique country au Québec, mais là, je me réjouis de voir autant de messages d'appréciation, d'admiration, entre autres par notre collègue M.C. Gilles, qui a une grande admiration pour tous les artisans du country, alors qu'il repose en paix, comme on dit.
Très bien, monsieur.
Je commence par le cercle de Cormier.
Ah, hein? L'anneau.
L'anneau de Cormier, le seigneur des anneaux. Moi, je trouve incroyable les réactions là-dessus. Là. D'abord, c'est essentiellement de l'argent privé. Les gens, oui, mais on aurait pu le mettre dans le logement, on aurait pu le mettre dans ci, dans ça. Mais premièrement, c'est 5 millions de dollars pour lequel le gouvernement du Québec est un des contributeurs. Je ne sais pas, on ne sait pas combien il a donné, peut-être, mettons 1 million de dollars. T'sais. La plupart des gens confondent les millions puis les milliards. T'sais, pas, moi, mais oui, c'est vrai. T'sais. Là, le gouvernement du Québec vient de donner 3 milliards en chiffres, en retour sur en chèque de 500 dollars pour lutter contre l'inflation. Pour comprendre la différence entre 1 million et 1 milliard, là, quand t'es pas mathématicien, moi, c'est ça qui m'a aidé à comprendre. Si tu comptes 1 $ par seconde, toutes les secondes, ça va prendre 11 jours pour compter 1 million. Ça va prendre 23 ans pour compter 1 milliard. C'est ça la différence. 11 jours, 23 ans.
C'est quoi le rapport avec ton anneau?
Il a coûté 5 millions de dollars, payé par le privé, dont une partie, peut-être 1 million de $, est une contribution du public. Quand tu dis avec ça, on aurait pu régler le problème de logement social, on aurait pu régler le problème de faim dans le monde, non, non. Puis quand tu regardes de l'autre bord, on donne 3 milliards de dollars en chèque de 500 $, là, peut-être, tu aurais pu faire quelque chose avec ça. T'sais, donc, faut pas confondre. Quand tu regardes les sommes, faut que tu regardes. Par ailleurs, je ressens dans cette histoire-là une rage, bien plus que juste une critique, une rage. J'en reviens pas des commentaires.
T'sais, tu veux dire une rage parce qu'on met de l'argent dans l'art urbain, c'est
ben, ça? L'art urbain, ouais, c'est ça. Ouais, oui, ça. Puis le centre-ville, puis au-delà de la maudite ville de Montréal, puis de toute manière, c'est lettre, puis c'est plein de trous, puis maudits bâtards. Puis, t'sais, comme, t'sais, l'anneau a comme cristalliser la colère de plein de personnes dans les médias sociaux. C'est, ça n'a pas de maudite allure, puis ça sera jamais beau, puis c'est laid, puis c'est congestionné, puis c'est plein de cons d'orange. Hey, on fait un geste pour embellir, puis c'est un geste pour embellir qui est juste un geste qui va souligner beaucoup d'embellissement le long de cet axe-là. Mais il y a des gens qui ont la colère contre Montréal. Moi, ça, comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau à Ottawa?
Ouais.
Opérationnellement, ils ne sont pas bons. Là. Les opérations, ils sont juste pas bons. Il faut fermer la ville au grand complet.
Toujours les mesures modérées.
Ben oui,
la position nuancée.
Il est l'incarnation de la modération.
C'est vendredi.
Oui, non, je sais.
Fait que là,
tu parles de Service Canada puis
les passeports.
Les passeports et l'immigration aussi.
Ben voilà. Aujourd'hui, on apprend deux reportages coup sur coup dans Radio-Canada. À Radio-Canada, l'immigration, 31 mois pour traiter un dossier. Puis là, ah oui, mais le dossier est en papier. Bon, on les avait pas numérisés. Mais ils sont faits juste en un site. Puis la COVID ne permettait pas d'envoyer les papiers chez les gens. Puis quand on les a numérisés, on avait plein de problèmes. OK, donc correct. On a compris, là. Mais ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans de problèmes opérationnels les uns à côté des autres. Puis là, on apprend que pour tricher Revenu Canada, ça prend un nom, un numéro d'assurance sociale, un code postal, dat it, dat salt, puis tu peux recevoir du chômage chez vous, de plusieurs. Tu sais, si tu voles 10 noms comme ça, ben tu reçois, puis tu reçois 10 fois le revenu. Et il y a des milliers et des milliers de cas de tricherie à travers le Canada. Ils sont pas capables de régler ce problème-là. Coudonc, moi, je sais pas comment l'expliquer, mais mon explication, c'est un écart entre le travail de l'élu à Ottawa puis les opérations. Il a l'air d'avoir une distance tellement plus grande qu'à Québec. Ou s'il y avait des problèmes de cette nature-là, puis quand il y en a eu, et il y en a eu, il y a un espoir de règlement à un moment donné.
Tu vois, en immigration, François Legault réclame les pleins pouvoirs, puis il y a peut-être un bon argument là, à la lumière mais de tous les problèmes vécus par le ministère de l'Immigration.
Mettons.
Ouais.
Puis les passeports, prendons les passeports en même temps.
Mais t'es mieux de pas partir demain matin ou dans 2 jours, parce que là, oublie ça, ton chien est mort.
Les Sœurs de la Charité, le terrain, le grand terrain des Sœurs de la Charité.
Oui.
Hey, ça, c'est toute une affaire. Donc, le Québec a décidé d'acheter le terrain, magnifique terrain. Ils vont l'acheter et ça, ils vont en faire un parc agricole. Ça aurait pu être un parc de bungalow, là. C'est un beau geste. C'est un geste là, qui va faire unique. Moi, je regarde tout le temps les gestes là, qui vont avoir du sens pour le lieu, mais pour la province puis pour le monde. Parce que acheter en périphérie d'une ville, presque collée sur la ville, un terrain de 97 hectares, puis de le transformer en terrain agricole, de le garder en terrain agricole, de garder son aspect nourricier, c'est un geste très, très fort. Alors, bravo au gouvernement du Québec. Puis, si tu veux, je peux m'arrêter là.
Non, c'est une dernière proposition.
OK, Poilievre et Charest qui disent on va ramener...
C'est pour ça que je l'avais vu.
Poilievre et Charest et Duhaime qui disent qu'ils vont ramener GNL Québec parce que les Québécois devraient avoir leur mot à dire. Ben, attention, un petit peu, on retourne dans l'histoire. Là. Je sais que Poilievre, il a mis les pieds au Québec il y a 3 semaines, là, mais un instant, là. Il y a eu une décision du gouvernement du Québec. Les conditions n'étaient pas rassemblées par GNL Québec. Et une des conditions, c'était l'acceptabilité sociale. Pourquoi il n'y a pas d'acceptabilité sociale? Parce que le transport de bateaux aurait touché à la pouponnière des bélugas du Québec. Est-ce que vraiment les Québécois veulent que la pouponnière des bélugas du Québec soit touchée pour produire du GNL albertain?
Ça permet à Poilievre de dire, moi je le ferais, pas de ma faute, c'est le Québec qui veut pas.
Ben voilà, c'est au moins ça, c'est un bon move politique pour sa gang, mais cette idée de dire faut qu'on le fasse là, à cause du gaz russe, là. Puis là, les Québécois sont d'accord. Non, les Québécois sont pas d'accord.
Merci, monsieur. Bonne fin de semaine, madame aussi.
23.